Bonjour à tous. Je suis content, heureux de partager la parole du Seigneur avec vous ce matin. Je vous amène de nouveau dans le désert. C'est la deuxième partie, donc, après la pluie qu'on a eue en France. Heureusement, nous, on était moins touchés. Mais voilà, donc on part d'ici et on y va vers le désert. Vous êtes prêtes? Allez. Tout d'abord, on va lire le psaume 106, 13, s'il vous plaît. Mais ils, entre guillemets, les Israélites, oublient bientôt ses œuvres. Ils n'entendirent pas l'exécution de ses desseins. Attendre, ça c'est un mot très très dur. Je me rappelle quand j'ai quitté l'Allemagne pour venir en France. Qu'est-ce que j'ai dû attendre pour arriver en France avec les papiers administratifs, changer les passeports, reconnaissance de diplôme, traduction, etc. Attendre, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Apparemment, les Israélites, ils étaient pareils. Notre société court tout le temps. On ne sait pas s'arrêter. On ne peut pas réfléchir aujourd'hui. On y va tout de suite. Il faut que ça aille très vite, tout le temps. Ça reflète notre société. Et déjà à l'époque, c'était comme ça. Saül est un exemplaire pour l'impatience. Vous vous rappelez, Saül était le premier roi d'Israël. À cause de son impatience, il a perdu sa position en tant roi d'Israël. 1 Samuel, chapitre 13. Au lieu qu'il attend le sacrificateur et le prophète légitime Samuel, il a pris les choses à sa main. Il a offert holocauste lui-même. Donc, il a fait le travail de Samuel. Mais vous savez, je le comprends. Imaginez. Humainement, je le comprends. Saül était sous la pression énorme. Pas loin de chez lui, il y avait l'armée, le Philistin, innombrable, comme le sable. C'est décrit dans la Bible. Ils étaient là. Et il attend, et Samuel ne vient pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, ça fait rien, je le fais moi-même. Donc, Saül était sous la pression. Déjà, le peuple s'est dispersé loin de Saül. Il ne voulait plus attendre. Donc, il fallut absolument agir pour pouvoir contrôler la situation. Qui contrôle finalement les situations? C'est Saül ou Dieu? Dans le désert, on voit ce peuple, Israël, avec leur impatience. Vous savez, dans les situations extrêmes, l'homme se dévoile. Dans les situations des épreuves, on fait connaissance de notre vraie nature. Combien vaut votre foi devant les difficultés? Quand tout va bien, c'est facile à dire, je suis chrétien, je crois en Christ. Oui. Mais quand il y a des problèmes, un après l'autre. Pourquoi Israël a dû passer 40 ans dans le désert? La réponse se trouve au Deutéronome 8, 2 à 5. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de te humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Donc la réponse, pourquoi 40 ans dans le désert? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Quelle était la nature de ce peuple? Un peuple choisi par Dieu, élu par Dieu. Apparemment, ils avaient des bonnes qualités, ou non? Voyons. Imaginez. Ils viennent de sortir d'Égypte. Ils étaient en esclavage. Dieu les a fait partir. Ils étaient libérés. Ils ont vu des grands miracles. Les 10 fléaux. Les 10 plaies. Comment Dieu a frappé l'Égypte. Ils ont vu la main puissante de l'Éternel. Maintenant, libres. Ils ont vu comment Dieu a détruit le Pharaon sur la mer Rouge et son armée. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont mangé le pain du ciel, la manne. Dieu les a nourris. Dieu l'Éternel les a guidés par une colonne de nuages dans la journée et par une colonne de feu dans la nuit. Il les a éclairés dans leur chemin. Donc Dieu était avec eux. Il était présent jour et nuit. Deutéronome 8, verses 2 à 5. Quelles étaient les dispositions de ce peuple? Adoration pour Dieu. Reconnaissance, bien sûr. Joie en Dieu. Louange. Ça serait naturel. Comment ils se comportaient quand Pharaon et son armée s'approchaient d'eux? Ils étaient aussi sous une pression énorme. Imaginez ça. Les montagnes à gauche, à droite, derrière Pharaon et son armée, et devant eux, la mer Rouge. Comment ils se comportaient à ce moment-là? Exode 14, 10 à 11. Exode 15, 24. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? C'était ça leur réponse. Moïse, tu as dû nous laisser mourir en Égypte. Regarde où on est à cause de toi et à cause de tes histoires-là. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Toutes, pas quelques-uns, toutes. Incroyable. Après tout ce que Dieu a fait pour eux. Mais ça ne s'arrête pas là. Exode 32, 1 à 6, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse, il est allé vers le sommet des montagnes pour recevoir les 10 commandements, le contrat. Ils étaient en bas. Ils ont eu une très bonne idée. De fabriquer un veau d'or. Incroyable. Je perds encore tous les cheveux qui me restent quand je lis ça. C'est incroyable. D'où venait cette idée? On voit encore une fois l'influence d'Égypte. Eux, ils adoraient le taureau. Ça, c'est notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Après tout ce que Dieu a fait pour eux. Incroyable, mais vrai. Ils ont vite oublié tous les miracles, ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils n'ont pas pu attendre que Moïse descende. Regardons sur le Nouveau Testament. Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle promesse! effectivement, Jésus, il se servit de Pierre pour créer, pour bâtir son église. Acte 2, 41. C'est à cause de lui que tout a commencé. L'église du Seigneur, après sa prédication, de plusieurs mille se sont convertis. La naissance de l'église. Mais avant qu'il soit utile pour le Seigneur, lui-même a dû passer par le désert. Et Dieu a dévoilé sa vraie nature. Malgré sa connaissance qu'il avait sur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit sur Jésus-Christ? Matthieu 16, 16. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est toi notre Sauveur. » Il a tout compris. Mais Matthieu 26, 69 à 75, quand il était sous la pression, ils ont voulu lui aussi attraper. Toi, tu étais avec celui-là aussi, ce rebelle. Ah non, 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 je ne connais pas cet homme. Si, si, tu étais tout le temps avec eux, avec ce groupe-là. Et Jésus, c'était ton maître. Ah non, 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 je ne connais pas cet homme, je n'ai jamais vu cet homme. Mais si, on t'a vu quelque part, déjà marché avec lui. Mais non, je vous jure, je n'ai jamais vu cet homme. Pierre, son cœur. Sous la pression, Dieu dévoile notre vrai cœur, notre vraie nature. C'est pour ça qu'on est averti sur les épîtres des Corinthiens, 1 Corinthiens 10 à 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Qui es-tu? Que penses-tu de toi-même? L'apôtre Paul disait sur le chapitre 7, 18 aux Romains, il n'y a rien de bon en moi. Je souligne rien. On peut croire des fois qu'il y a des bons trucs encore en nous, un petit peu quand même. Non, rien. Rien de bon. La racine est mauvaise. Si Dieu nous lâche, on est capable de faire tout. On le voit tous les jours, ce que l'homme peut faire. Et des fois, Dieu nous lâche faire. Et c'est une catastrophe. Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Ça, c'est le verdict d'un Dieu trois fois saint. Le seul sans tâche, sans péché, c'est Jésus-Christ. Il a été tenté, il a été éprouvé aussi dans le désert. Jamais il a commis un péché, jamais il a eu une mauvaise pensée. C'est l'agneau sans tâche, un homme parfait. David, le roi d'Israël, il a beaucoup souffert à cause de son cœur. Il a compris qu'il a un mauvais cœur. C'est pour cela qu'il demande dans le psaume 51, 12, le Seigneur, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ça, c'est une vraie bonne prière que Dieu entend. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples qui ont dû passer par des expériences désertiques? Jacob, oui, oui, aussi, oui. D'autres? Qui? Élie, oui, je ne sais pas, peut-être. Apôtre Paul, il a passé aussi, je pense, 2 ans dans le désert. Jean le Baptiste, on l'a trouvé dans le désert. Bien sûr, Jésus, notre Seigneur. Agar, Moïse, très longtemps. Joseph a été jeté dans une citerne au désert. Genèse 37, 22. Apparemment, c'est un endroit très intéressant pour Dieu et pour l'homme, le désert. Psaume 23, 1. Qu'est-ce qu'il a dit David ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut dire ça quand on a tout ? Non. Ça, on comprend quand on n'a plus rien. Là, on comprend que Dieu est tout. Il a vécu la présence de Dieu. Il était 7 ans dans le désert. Il a vu sa présence. Il a appris à se confier à l'Éternel uniquement. Et vous savez, lui aussi, il a dû attendre. Il a été nommé pour être le deuxième roi d'Israël. Hein? Mais tout d'abord, Dieu l'a envoyé dans le désert. Apprentissage. 7 ans. Roi d'Israël. Avant qu'il puisse guider son peuple, il a dû apprendre d'être guidé par l'Éternel, par le roi souverain. Quel est ton désert personnel? Ça peut être ta famille. Peut-être qu'il y a des problèmes avec les enfants. Peut-être dans ton couple. Il n'y a plus rien à partager. Il y a le silence. Plus de communication. Plus d'échanges entre vous. Quel est ton désert personnel? Peut-être c'est la solitude. La solitude, c'est dur, vous savez, d'être abandonné, de ne pas avoir des gens qui viennent te rendre une visite pour les fêtes tout seul, dimanche tout seul. C'est pas facile. La vieillesse, ça peut être aussi un désert grave. De souffrir tous les matins, il faut se mettre en route parce que vous avez mal partout. Vous voulez courir, mais vous ne pouvez pas. Vous voyez moins bien. Le cœur qui se fatigue. Vous êtes aussi un peu à part. Les jeunes, ils courent, mais vous, vous ne pouvez pas participer partout. Maladie grave, peut-être aussi. Ça peut être un désert personnel pour vous. Vous n'avez plus d'espoir parce que la maladie, elle avance. Un autre désert, c'est le porte-monnaie, j'ouvre, il n'y a plus rien. Un autre problème, ça peut être le travail, beaucoup de tensions dans le travail, ou pas du tout du travail, des années. Ça peut être ton église aussi. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu des années désertiques dans mon église. Il y avait beaucoup de problèmes. Et j'avais très envie de partir. Mais le Seigneur a dit non. Reste là. C'est moi qui s'occupe de mon église. C'est moi qui juge et c'est moi qui prends les choses à ma main, à son temps. C'est un frère qui m'a conseillé à l'époque. Je suis resté. Heureusement, il avait raison. C'est facile partir quand il y a des problèmes. On peut dire aussi, peut-être tu dois passer ou traverser plusieurs déserts en même temps, comme le peuple d'Israël. Ils ont passé plusieurs déserts pour arriver finalement en pays Canaan. Mais vous savez, le désert le pire à traverser, c'est le désert de la religion. Je me rappelle, il y a 25 ans en arrière, je cherchais Dieu. Partout, j'étais musulman. Ce que j'ai appris par mes parents, ce que j'ai connu, ça ne m'a pas aidé. C'était vide en moi. Je me suis renseigné, j'ai écouté les témoins de Jéhovah, les catholiques, un peu tout. Non, c'est un désert. Il n'y a rien. On cherche et on cherche l'eau vivante, on cherche l'eau qui calme la soif de notre âme et c'est le vide qu'on trouve. la région, elle te dit, fais ça, et si, etc. Mais quand j'ai trouvé la Bible, ça m'a été offert, j'ai lu sur Jésus, il dit, je suis la vérité, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Il est le pain du ciel, il est l'eau vivante, il est la porte vers le ciel. On a accès seulement à travers de lui à Dieu. C'est lui qui est notre vrai bonheur. Et j'ai compris ça il y a 25 ans en arrière. Écoutez bien, n'importe sur quel dessert vous vous trouvez en ce moment, toutes les circonstances que vous devez traverser, c'est permis par Dieu. C'est lui qui règne. C'est lui le suprême. C'est lui le maître. C'est lui le créateur. Pourquoi Dieu permet des choses comme ça dans notre vie? Pour qu'on trouve l'oase vivante qui calme ta soif en toi. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Psaume 107, 35. Dieu veut transformer tes difficultés en une oase. Oasis. Merci, oasis. Il veut transformer ton désert où tu trouves actuellement à une source d'eau. Comme il a fait pour ce peuple d'Israël. Au milieu du désert, tout à coup, Dieu les a amenés aux sources d'eau. Il y avait 12 en tout. Imaginez, avec 70 palmiers. Nombre 33, 9. Dieu poursuit un but très précis dans ta vie. Et tu sais lequel? Qu'est-ce qu'on doit apprendre à travers des situations désertiques? Je vous demande de retenir cette phrase aujourd'hui. Oubliez tout, mais cette phrase, retenez aujourd'hui. Il a un but très précis. Dépendance totale de lui. Dépendance totale de lui. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il y a les dangers, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de l'ombre, on est désorienté. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il n'y a rien, sauf Dieu. Dieu, il est dans le désert, dans ton désert, il est là. Et Dieu est suffisant. Dieu a montré au peuple Israël qu'il est capable de les nourrir dans le désert où il n'y a rien qui pousse. Dieu est capable de prendre soin à nous tous dans les situations désertiques où il n'y a plus rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Jean 15, 5. Rien. Pourquoi nous avons vraiment besoin des expériences du désert? Vous savez, quand tout va bien, pourquoi Dieu? Je contrôle moi-même, je gagne mes sous, j'ai une bonne famille, j'ai des enfants, travail, ma santé va bien, j'ai la force, j'ai un bon cerveau. Mais vous savez, la réalité, elle est différente. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en France? On peut tout perdre dans un jour. Tout. Voyez Job, il a tout perdu. Une journée. Ses enfants, sa richesse, sa santé, etc. Et même sa femme, il a laissé tomber. Ça peut être la réalité. Donc il n'y a rien de sûr de ce monde. On est d'accord. La seule chose qui est sûre, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de lui, la dépendance totale de lui. Dieu nous donne même si on ne demande pas, mais mieux ce qu'on lui demande. Vous aussi, vous aimeriez bien que vos enfants vous demandent quelque chose. ça serait plus logique. Vous êtes content. Si vous vous demandez, papa, j'ai besoin de ça ou ça, et vous allez lui donner. Mais vous le donnez aussi s'il ne vous demande pas. Mais mieux, c'est de demander. Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ça, c'est l'homme. Hein? On peut vraiment avoir une illusion qu'on maîtrise tout. C'est faux. On ne maîtrise rien du tout. Luc 9, 1. Jésus, ayant rassemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Jésus donne la force. Vous savez, comment on pourra exprimer notre dépendance quand on a besoin de quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? On demande, on est demandeur, on prie. C'est là où on voit qu'on est demandeur. Oui, je prie. Quand je prie, je signale à Dieu que j'ai besoin de lui. J'ai rien, moi. J'ai rien à t'apporter. J'ai bien besoin de toi tous les jours, chaque instant. J'ai besoin de toi. Seigneur, je suis pécheur. Je n'arrive pas. Aide-moi. Seigneur, j'ai un grand problème avec ma famille, avec mes enfants. Seigneur, je ne peux plus. Je suis fatigué. Aide-moi. Exode 33, 11. On lit sur Moïse et l'Éternel. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parlait à son ami. C'est très beau ce verset. C'est ça que Dieu veut. Il veut être notre ami. Tu peux te confier en lui entièrement. Tout, même pour un petit truc, Dieu, il te prend au sérieux. Est-ce que Dieu, notre Créateur, veut qu'on s'accroche peut-être un petit peu quelque chose qui est vain, transitoire, passager? La réponse est bien sûr non. Jérémie 17, 5 à 8. Dieu, hein, on va lire peut-être ce verset parce que c'est vraiment important. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui s'est confié dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui s'est confié dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui entend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Dieu a voulu que le peuple Israël apprenne au désert une dépendance absolue en lui. Dieu veut aussi que toi apprends la même leçon personnelle, une dépendance absolue de lui. Et une indépendance de toute autre chose, comme un homme, médicament, enfant, femme, prêtre, église, frère, sœur, famille, chirurgien. Vous savez, ne comprenez pas mal, c'est beau d'avoir des frères et sœurs, mais ne mettez pas votre confiance entièrement à un frère ou à une sœur ou à un chirurgien. J'ai connu un exemple. Cet homme, il a quitté Banyuls pour se faire opérer à Paris au niveau sa hanche, une prothèse. Il est venu, c'est une catastrophe. Il était paralysé et l'articulation elle est sortie, la prothèse. Il est allé exprès parce que c'était un très bon professeur. Non. Mettez votre confiance uniquement à celui qui est à 100%, c'est Dieu. Bien sûr, on peut s'appuyer, mais pas à 100%. C'est beau d'avoir la famille, etc. Mais Dieu veut rester numéro un dans votre cœur. Après, c'est le reste. Jérémie 10, 10, Jérémie 10, 23, 24. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est incroyable. Mais ce n'est pas possible. Je marche comme je veux, non? C'est vrai. Ça vous est jamais arrivé que vous avez programmé quelque chose et après il y avait plusieurs événements qui ont tout basculé? Vous savez, on ne peut pas contrôler tout. Hein? Ou vous voulez partir et la voiture ne démarre pas. Vous êtes coincé. Ça, c'est la réalité. C'est Dieu qui contrôle finalement tout. C'est lui qui gouverne. 1 Samuel 2, 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre et il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Chaque battement de ton cœur, chaque respiration de ton souffle dépend de lui. C'est automatique. Colossiens 1, 16 à 17. Écoutez bien. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en lui. Si Dieu relâche, tout tombe. Si Dieu ne tient pas ta santé, ton cœur, oh, ça s'arrête. C'est lui qui commande. Finalement, c'est lui. Tu ne pourras pas bouger le petit doigt si Dieu ne te donne pas les capacités. Dieu veut qu'on soit consciente qu'on est dépendant de lui entièrement. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es vraiment conscient de ça? L'inondation qu'on a en ce moment, d'où ça vient? C'est la nature, le réchauffement climatique. Lisons Job 37, 10. Voilà, c'est Dieu qui frappe et c'est Dieu qui donne son amour. C'est Dieu qui a envoyé la pluie, des inondations, finalement. Ce n'est pas la nature, c'est Dieu qui gère tout. Ce n'est pas nous qui maîtrisons tout ça. Si on voit les prévisions météo, ils n'ont pas parlé de l'inondation. On a des caméras, on a des satellites et tout, et voyez comme on est puissant. Dieu nous montre encore une fois, vous avec votre technologie, voyez où vous êtes. Si moi je ne vous protège pas, vous êtes foutus. Ça, c'est Dieu. Dieu veut nous enseigner, éduquer à travers de nos difficultés, à travers de nos heures sombres, des heures désertiques, que Dieu seul est nécessaire dans toutes nos difficultés. Vous savez, Dieu n'a pas plaisir de nous faire souffrir, mais c'est nécessaire pour que nous comprenions qu'on a besoin de lui pour toutes choses. Pour vivre avec un sens qui vaut le coup. Salomon nous dit, mieux vaut le chagrin que le rire. Ecclésiaste 7, 3. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. À travers de la tristesse sur nos péchés, sur nos mauvaises conduites, on apprend que Dieu est tout. On a besoin de sa miséricorde. Vous savez, on peut vraiment dire, ce monde, il ressemble aussi à un désert. Depuis la chute d'Adam et Ève, depuis leur désobéissance, la terre est devenue désertique, un monde sans Dieu. Un monde désorienté. sans espoir, perdus comme les cent brebis dans la parabole en Luc 15. Nous sommes en danger. Même la police est en danger. Vous avez vu ce qui se passe. L'homme, Adam, a choisi l'indépendance. Indépendance de son Créateur. Quelle était la conséquence de son choix? Catastrophe universelle. La mort. Esclavage. C'est plus Dieu leur maître. Ils ont choisi Satan, le diable. C'est la situation de l'homme de sa naissance. Nous sommes esclaves, descendants d'Adam et Ève. Nous avons le péché en nous. Nous avons hérité le péché. Jésus, le deuxième Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé avant le soleil. Il se levait, il priait. Il était dépendant total de son Père au ciel. Est-ce que tu veux vraiment cette situation? Indépendance sans Dieu. Est-ce que tu veux vraiment continuer une vie comme ça et finir avec le diable au lac de feu? Je ne peux pas imaginer que tu peux choisir ça. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a une libération de cette misère? Oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vous annonce qu'il y a une libération de cette misère. C'est Jésus, Jésus-Christ, il est le libérateur. C'est lui qui nous sauve de cette situation mortelle. On a besoin de lui. Donc invoque son nom aujourd'hui et tu seras sauvé. Dis-lui tout ce que tu as dans ton cœur et deviens un ami de Jésus. C'est lui qui a laissé sa vie à la croix pour toi. Un petit rappel pour ceux qui ont fait déjà ce pas. Vous êtes baptisés, donc on a bien signalé au monde visible et invisible qu'on appartient à plein droit à Jésus-Christ. On est devenu esclave du Christ. 2 Corinthiens 5, 18 à 20, on est devenu ambassadeur du Christ. Nous connaissons l'eau vivante, nous connaissons le pain de vie. La faim spirituelle en nous, elle s'est arrêtée parce qu'on a Jésus en nous. C'est lui la vie, c'est lui la paix. La paix à l'intérieur que seulement Jésus peut donner, qu'il donne à ceux qui le demandent. Et pour cela, l'apôtre Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile. Tout. Une question à vous, qu'est-ce que tu fais pour l'évangile? Toi personnellement, tu réponds ça à toi-même. Quel est ton but dans ta vie chrétienne? Quel est le but de l'Église? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Jésus veut qu'on se préoccupe de son affaire tout d'abord. Le reste après. Est-ce que vous avez cette priorité dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a dit avant qu'il monte au ciel? Il nous a donné cet ordre, faire bâtir son Église, faire des disciples dans le monde entier. Est-ce qu'on est dedans? Un petit résumé à la fin. Dieu veut nous guider dans ce monde désertique jusqu'à notre arrivée au ciel. Ça, c'est une promesse énorme. On n'est plus seul. Dieu est notre GPS. Dans toutes les circonstances, il veut nous guider. Il est le bon berger. Deuxième chose, Dieu nous révèle notre état pécheur dans le désert. Le peuple d'Israël ont adoré le veau d'or à peine que Moïse, leur leader, est disparu dans les montagnes. il n'y a rien de bon en nous. Voyez à quoi nous sommes capables. Ça, c'est nous. Ce n'est pas que Israël. Hein. Ça, c'est nous. Il nous montre notre vraie nature. Dieu prend soin de vous. Je t'ai conduit pendant 40 ans. Il est fidèle. Dans le désert, les vêtements ne s'est point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Ils sont jamais allés faire les courses et super U, hein? Même pas des chaussures, rien. Dieu les a préservés. Ça, c'est Dieu. Dieu veut nous éduquer comme un père, un enfant, mais mieux. Pour qu'on vive une vie sainte, car il est saint. Dieu veut qu'on soit indépendant, je répète encore ça, indépendant de toute chose, indépendant de l'homme et dépendant de lui. Il faut lui faire confiance à 100%. Est-ce qu'on peut faire confiance un peu en nous? Non, il n'y a rien de bon en nous. Faites pas confiance en vous. Que Dieu vous protège. Surtout pas. Regardez juste sur Pierre. Il a joué le beau. Hein? Comment il est descendu? 3 fois il a régné le Seigneur. Vous savez, Dieu a enlevé Moïse et Aaron, les leaders. Il n'y avait plus rien. Pas de leader. Je me suis demandé pourquoi. Pour le montrer, c'est moi derrière Moïse. C'est moi qui vous guide. Vous avez besoin de moi. Luc 14, s'il vous plaît. On arrive à la fin. Luc 14, c'est affiché, j'espère. Luc 14, ça c'est aussi, ce sont des versets très choquants. Luc 14, 25 à 27 et puis 33. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et il se ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Dépendance totale de Jésus. C'est ça que Jésus veut dans votre vie, dans ma vie, ce que j'ai appris moi aussi, dans mes expériences avec les années. On a besoin de lui à 100%. Vous savez, 1 Corinthiens 7, 23, on a été racheté à un grand prix. Le Seigneur, il a payé le prix le plus fort. Il a donné sa vie pour toi. Il n'a pas pu faire plus. Il est allé jusqu'au bout. Quelle est votre réponse? Apôtre Paul il dit, je suis esclave du Christ. C'est ça. La réponse, elle doit être soumission totale sous Jésus-Christ, sous sa parole. Je l'ai obéi, je le suis, parce qu'il m'a aimé au premier. Amen.